Et bienvenue à Saint-Lô. Notre paroisse, Père Paul-Claude Dioc et nous, les équipes paroissiales, sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous remercions vivement Père Benjamin Martin d'avoir accepté de parcourir un long chemin pour venir jusqu'à nous afin de présenter l'enseignement de ce jour dans le cadre du cycle des conférences de carême. Père Benjamin Martin est prêtre en paroisse de Montbourrier, dans le département des Hautes-Pyrénées. Il va animer pour nous une conférence sur le thème « Les apparitions de Lourdes et le message de la Vierge Marie », sujet dont il est spécialiste. Bonne conférence à vous, et Père, vous avez la parole.
Merci. Alors, frères et sœurs, nous allons tout d'abord nous lever pour prier celle dont nous allons tant parler, la bienheureuse Vierge Marie, dont je crois que vous avez une vénération particulière pour Notre-Dame du Salvé. Voilà, alors nous l'invoquons, nous lui confions d'avance toutes nos intentions de prière pour nous-mêmes, notre conversion, tous les membres de nos familles, tous ceux qui traversent des épreuves, sans oublier tous nos fidèles défunts, afin qu'ils reposent dans la paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, ave, ave. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le 11 février 1858, la jeune Bernadette Soubirousse se rend à la grotte de Massabielle. C'est en compagnie de sa sœur et d'une amie de sa sœur, Baloune, pour chercher du bois. Vers 11h du matin, on s'est rendu compte au cachot que nous n'avons plus de bois et on s'est rappelé que si on avait mangé la veille, c'est parce qu'on avait réussi à bien vendre les fagots de bois. Alors il faut aller chercher du bois, chercher également des morceaux d'os dont on se sert comme du charbon, afin de pouvoir penser à un maigre déjeuner ce 11 février 1858. La première apparition entre 11h et 14h voit Bernadette et ses deux amis se rendre à Massabielle. Pourquoi à Massabielle ? Parce qu'il ne s'agirait pas d'aller voler du bois sur une propriété privée. Massabielle est un terrain municipal. Voilà le lieu choisi par Bernadette, sa sœur et cette amie. Et voilà qu'elles arrivent à Massabielle, par l'île du Chalet, de telle sorte qu'elles ont le gave juste derrière elles et que devant elles se trouve le canal de sa vie d'une largeur d'environ 3 mètres. Voilà que Toinette et Baloune, bien plus jeunes, s'élancent, joyeuses. Elles sont rafraîchies. Avec leurs jupons, elles commencent à s'essuyer leurs jambes bien rougies, tant elles sont transies de froid. Et voilà que Bernadette veut traverser. Bernadette a le privilège dans sa famille d'avoir des bas de laine. car elle a une très mauvaise santé et notamment beaucoup d'asthme. Mais voilà que ses deux amies, qui s'amusent, ne sont pas très heureuses d'avoir Bernadette la malade à leur côté, d'avoir Bernadette la sœur aînée qui va jeter un œil sur leur jeu de jeune demoiselle quelque peu excitée. Elles demandent bien si on peut l'aider à traverser, mais voilà qu'elles partent chercher du bois. Bernadette se trouve donc en face de la grotte de Massabielle. Elle commence à enlever son premier bas de laine pour traverser le canal de sa vie. Et voilà qu'elle ressent un fort coup de vent qui fait virevolter son capulet. Alors le capulet, nous ne sommes pas en Anjou, nous sommes en Bigorre, le capulet est en laine très lourde. Cela veut dire qu'il faut quand même une belle bourrasque pour pouvoir faire bouger ce drap de laine. Bernadette est étonnée parce qu'elle est au milieu de la forêt et qu'autour d'elle, rien n'a bougé. Elle commence à enlever le second bas de laine et voilà que son visage est attiré par tout d'abord un buisson qui bouge. Le fameux rosier, de la grotte. Ce buisson bouge, comme si quelque oiseau s'y trouvait prisonnier à l'intérieur. Puis, au-dessus de ce buisson, elle commence à voir poindre une petite lumière. Et voilà que cette lumière, petit à petit, grandit. Et que voit-elle dans cette lumière ? Un sourire. Et à travers ce sourire, voilà qu'elle voit se dessiner la forme d'une très jeune demoiselle. La demoiselle au sourire, la demoiselle en lumière. Et Bernadette, avec son bon sens chrétien, est étonnée. Elle prend les deux paumes de sa main et s'écrase, dira-t-elle, véritablement les globes oculaires. De telle sorte qu'une fois qu'elle a fini cette manœuvre, elle n'y voit plus quelques instants et elle revoit le grand sourire lumineux de cette très jeune demoiselle. Elle ne sait pas, malgré ce grand sourire et cette beauté ineffable, si celle-là, Akero en patois, lui veut du bien ou du mal. Elle a donc une idée bien précise. Elle sait qu'elle a son chapelet dans la poche de son tablier. Et elle se dit, si cela me veut du mal, cela partira en faisant le signe de croix. C'est donc cette idée qu'elle a en tête. Et au moment où elle met sa main, voilà que son bras est comme paralysé. La frayeur de Bernadette est telle qu'elle voit la dame faire ce qu'elle avait prévu de faire. La dame au long rosaire prend la croix de son chapelet et se met à tracer un long et grave signe de la croix. Et voilà que le bras paralysé de Bernadette retrouve sa mobilité et que la belle dame, qui est la maîtresse de la vie spirituelle, eh bien vient de commencer là un chemin de prière. Bernadette est donc à genoux et elle commence avec cette dame à dire le chapelet. La dame ne parle pas pendant ce chapelet, mais elle suit consciencieusement la prière de Bernadette. C'est important pour nous de bien comprendre que lorsque nous prions, y compris le chapelet, eh bien la dame est en prière à nos côtés. C'est la mère de l'Église, celle qui était en prière aux côtés des apôtres, celle qui est toujours là, bien présente, notre mère, et qui prie avec nous, qui prie pour nous. Voilà qu'il y a cette prière du chapelet. Le chapelet terminé, cette jeune demoiselle fait signe à Bernadette d'avancer. Mais c'est qu'elle ne se connaissent guère. Bernadette ne se sent pas de traverser le canal de sa vie et d'aller à la rencontre de cette jeune demoiselle. Et la dame disparaît. Reste quelques instants, cette lumière qui petit à petit diminue jusqu'à s'éteindre. Et voilà Bernadette, qui a donc été intriguée tout d'abord par un buisson qui bouge et un buisson lumineux qui, tel un nouveau Moïse, entre pieds nus dans le canal de sa vie et entre dans la nouvelle terre sainte qu'est la grotte de Lourdes. Et voilà sa sœur et la jeune Balloune qui reviennent, ayant cherché du bois. La première question de Bernadette, « N'avez-vous rien vu ?» Et Balloune, un peu expiègle, « Nous avons vu que tu n'as rien ramassé. » Et voilà que Bernadette est intriguée, elle regarde. Et les deux jeunes demoiselles, pour se réchauffer, se mettent à faire quelques pas de danse, et Bernadette fait arrêter immédiatement tout ce remue-ménage, car cette terre est devenue une terre sainte. Bernadette confiera à sa sœur sur le chemin du retour le seul désir de son âme, « Comme j'aimerais la revoir !» Le soir, lors de la prière familiale, car on dit le chapelet tous les soirs chez les Soubirous, dans le petit cachot, Bernadette ressent à nouveau l'émotion de la grotte, soit pendant le chapelet, soit à la jeune invocation de 1830, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !» Elle sent la présence de la Dame dans cette prière qui l'a unie à elle le matin même. Et puis il y a la seconde apparition qui a lieu le dimanche 14 février. Louise, la mère de Bernadette, a interdit catégoriquement à sa fille aînée de retourner à la grotte. Sa fille a un mauvais estomac, elle a beaucoup de crises d'asthme, ils ont perdu le moulin, ils ne sont pas seulement tombés dans la pauvreté, ils ont atteint la misère la plus totale. Il ne faut pas encore se faire remarquer par ce genre d'histoire. Et Louise, craintive, au soir même du 11 février, est montée chez le cousin Sajous, car le cachot qui était laissé là appartient au cousin qui vit au-dessus. Elle va voir le cousin Sajous se demandant si cette étrange demoiselle ne serait pas une âme du purgatoire qui viendrait demander quelques prières. Et pourtant, le 14 février, voilà que sa sœur Toinette, qui à l'école des indigents, Bernadette est scolarisée depuis le mois de janvier 1858, quelques mois. Bernadette ne parle pas un mot de français. Elle connaît le Notre Père, elle connaît le Je vous salue Marie, et le Je crois en Dieu, elle dit, c'est plus long. Elle a une très mauvaise mémoire, car à 14 ans, c'est une mémoire qui n'a pas été exercée. Et son rêve, entre nous soit dit, sera de devenir institutrice, de pouvoir donner ce qu'elle n'a pas elle-même reçu tout d'abord. C'est pour cela qu'elle rentrera chez les sœurs de Nevers. Alors le dimanche 14 février, sa sœur Toinette, qui a parlé à toutes les jeunes filles de ce que sa sœur a vu, quand on veut se moquer de Bernadette, on dit « Bernadette, elle a vu une va-nu-pieds à la grotte ». Parce que dans sa description, elle a vu cette jeune demoiselle, la robe blanche, la ceinture bleue, et puis les pieds nus avec sur chacun d'eux une rose d'or de la couleur du long chapelet que porte la dame. Bernadette a vu une va-nu-pieds. Alors ces jeunes demoiselles, vous savez, à cet âge-là, on aime bien se faire peur. La dame blanche avec sa ceinture bleue, pieds nus, il faut aller à la grotte, mais il faut y aller avec Bernadette. Louise, qui n'était vraiment pas motivée, dit ceci, « Vous n'avez qu'à demander à ton père. » Et la Toinette sait que François le Meunier passera tout à sa fille aînée Bernadette. Alors du coup, elles ont la permission d'aller à la grotte entre midi et deux et de rentrer surtout pour les vêpres à 15h. Alors elles y vont. Et Bernadette, qui habituellement a son asthme qui fait qu'elle ne peut pas marcher, qu'elle ne peut pas courir, est en tête avec les plus jeunes d'entre elles car elle sent en son âme l'appel de la grotte. Deux groupes se sont formés. Le premier, des plus jeunes filles qui arrivent à la grotte, et Bernadette fait l'expérience pour la première fois qu'il n'y a qu'elle qui voit cette jeune dame. Parce que lorsqu'elle se met à genoux à la grotte, elle prend autour des bras ses deux jeunes compagnes en leur disant « Kayla, elle est là !»« Mais faites un effort, vous ne la voyez pas ?» Et voilà que Bernadette, pour un temps, est là, entre deux mondes, entre cette extase qu'elle va avoir avec la dame et encore avec ses jeunes compagnes qui l'entourent. Et Bernadette a une mission. Sa mère, craintive, avait donné comme seule condition d'aller à l'église prendre une bouteille d'eau bénite et de la jeter à cette dame, car on ne sait toujours pas qui elle est, ni ce qu'elle veut. Et Bernadette, en bonne bigourdane, il y en a une parmi nous, ne va pas jeter quelques gouttes d'eau, toute la bouteille jusqu'à la dernière goutte. Et plus Bernadette jette cette eau bénite, plus la dame lui fait de beaux sourires et des inclinaisons. C'est la deuxième apparition, on s'apprivoise toujours. Puis Bernadette n'y est plus pour personne. Elle voit la dame. Il y a ce cœur à cœur que lui sont les apparitions. De telle sorte que les deux autres jeunes filles, les plus âgées, passent au-dessus de la grotte pour pouvoir y descendre. La grotte n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui. On a déplacé le gave, on a bâti la basilique au-dessus du lieu où Bernadette descendait. Même en 1861, quand Bernadette retourne à la grotte pour la seule photographie que nous avons d'elle, « Ma grotte, ma pauvre grotte, mais qu'est-ce que l'on a fait de la grotte ?» On lui demande « Mais mettez-vous à votre place !» Mais c'est qu'elle ne la trouve plus. Tout a tellement changé. Les jeunes filles passent donc au-dessus, et notre cher Balloun, que nous avons rencontré le 11 février, voit une grosse pierre. Elle se dit « Je vais te l'assommer, ta dame va-nu-pied. » Et elle se met à jeter la pierre au-dessus de la grotte qui tombe très près de Bernadette. Les jeunes filles ont poussé un hurlement. Elles ont entendu le bruit qu'a fait ce rocher, gros comme un chapeau, tomber et finir par se jeter dans le canal de sa vie. C'est les cris. Bernadette n'a pas bougé. Alors on commence à agripper Bernadette, à vouloir la faire bouger. Rien n'y fait. Bernadette n'est plus là que pour la dame. Ses grands yeux noirs ne clignent plus, elle est en extase. Alors on va chercher le meunier, Nicolo. Il a l'habitude de porter les sacs de farine, et notre petit chat maigre de Bernadette, 1,40 m, sous-alimenté, n'est pas bien lourde. Mais c'est qu'avec de très très grandes difficultés, il doit appeler son épouse, la sœur de son épouse, pour pouvoir l'aider. Et voilà qu'on transporte Bernadette, qui a toujours ses grands yeux noirs, qui se réveillera, si l'on peut dire, de son extase au moulin de sa vie, alors que pour elle, elle n'a été qu'à la grotte. Et Nicolo le meunier a été très édifié de voir ces grands yeux noirs de Bernadette qui, quelque temps, versait une larme, toujours en contemplation. Voilà pourquoi on a tant parlé des apparitions de Lourdes ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, pourquoi on vient nombreux à la grotte? C'est que ce visage de Bernadette est comme transfiguré. Il est devenu lumineux. Sa mère, qu'on a été chercher en ville, parce qu'on lui a dit que sa fille venait de manquer de mourir à la grotte de Massabielle. Balloun, qui sait la responsabilité qu'elle a dans le jet de la pierre, en voyant arriver Louise avec le bâton pour battre le maigre tapis que nous avons au cachot, comprend qu'il est temps pour elle d'aller aux vêpres. Et on interdit formellement à Bernadette de retourner à la grotte. Mais Nicolo le meunier, c'est le dimanche gras, juste avant le mardi gras, puis le mercredi des cendres, lui va parler dans tout Lourdes de cette expérience qu'il a vécue d'avoir porté une Bernadette qui était toujours en extase à la grotte. Alors nous arrivons à la troisième apparition, le 18 février 1858. Là entre en scène Madame Millet. Madame Millet et sa couturière Antoinette Peyret. À la description qui a fait le tour de la ville de Lourdes, de cette jeune demoiselle en robe blanche, ceinture bleue, Antoinette Peyret a reconnu, sous cet uniforme, la tenue des enfants de Marie. Ne reconnaissez-vous pas notre tenue de congréganiste? Ne serait-ce pas cette jeune demoiselle, Elisa Latapi, morte en odeur de sainteté sur ses consignes? Elle voulait mourir avec sa robe de congréganiste, son ruban bleu, le chapelet à la main. Madame Millet se pose donc deux très bonnes questions. Qui apparaît? Pourquoi? Que veut-elle? Et c'est comme ça qu'elle réussit à convaincre Louise, parce que Louise, la mère de Bernadette, fait 3 lessives par semaine au lavoir, à Madame Millet. Elle ne peut pas lui refuser son gagne-pain. Elle accepte donc que Bernadette retourne à la grotte. C'était prévu au dimanche, et puis on se dit le dimanche, il y aura trop de monde. Mieux vaut le jeudi, où Bernadette n'a pas classe. On va assister à 6h du matin, ou un peu avant, 5h30, à la première messe. On part un peu avant l'ité missa est, et voilà que nos trois jeunes dames arrivent à la grotte. Madame Millet a appris une phrase à Bernadette, une phrase bien précise. Elle demande à cette dame, en notre patois, Boulette, aue erabuentad de maître, vostenum per escriut. Voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit? Pourquoi par écrit? Parce que le père d'Antoinette Peyret est huissier de justice et on a emporté l'écritoire de l'huissier de justice, car il faut que la dame réponde avec la justesse d'un constat. Alors voilà, le plan de Madame Millet est prêt. Il faut réciter le chapelet. Quand Bernadette, pendant le chapelet, dit « Elle est là », nous devons dire le chapelet. À la fin du chapelet, on donne cette fameuse écritoire à Bernadette. Alors, vous qui êtes pèlerin de Lourdes, vous connaissez la niche dans laquelle la dame apparaissait. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la dame n'est pas toujours restée dans la niche. Ce jour-là, Bernadette a la mission, donc, d'aller demander à cette dame d'écrire son nom. Pour la première fois, elle se lève en présence de la dame. Elle se met à avancer en direction de la niche et là, alors que Madame Millet et Antoinette Peyret la suivent de peu, elle s'arrête. Elle fait un signe de dos car elle n'arrive pas à parler. Stop, arrêtez-vous! Alors les deux dames se mettent sur le côté. Pourquoi? Bernadette est intriguée. Quand elle avance, elle voit la dame qui recule. Est-ce qu'en avançant, elle ferait peur à cette dame? Eh bien non. Voilà que la dame recule dans la niche car il y a une ouverture intérieure qui lui permet de descendre à l'intérieur de la grotte, à l'opposé de la source. Lorsque vous retournerez toucher le rocher, eh bien vous verrez que la niche a une ouverture extérieure, mais tout autant une ouverture intérieure de laquelle la dame descendait pour un face-à-face avec Bernadette. Alors Bernadette se trouve face-à-face avec cette dame. C'est ainsi qu'elle peut lui présenter une écritoire. On comprend mal comment Bernadette aurait eu l'idée, sur une niche si haute, de lui tendre l'écritoire. Non, face à face. Et Bernadette lui dit « Boulette, aue rabuenta de maître vostrenum per escriut ». Quelle est la réponse de la dame? En patois, Bernadette ne parle pas le français. Sa réponse, avant d'être quelques mots, se fait dans un grand sourire. Et dans un rire communicatif qui prend Bernadette. Pourquoi rit-elle? Quand bien même la dame mettrait le nom par écrit, Bernadette n'est même pas capable de le lire, ni même capable d'écrire Bernadette à ce moment-là. Et Bernadette le comprend, et elle rentre dans cette relation avec la dame, dans non plus un sourire, mais dans ce rire bienveillant. Et la dame lui répond d'une voix douce et fine, « N'ai pas nécessaire. » Ce n'est pas nécessaire. La dame n'est pas venue pour écrire. Elle ne s'adresse pas à l'intelligence de Bernadette. Elle vient s'adresser à son cœur. Et parce qu'on n'écrit pas dans un cœur comme on écrit sur du papier, voilà que la dame va inviter Bernadette. Bernadette a dit « Voulez-vous avoir la bonté de venir, de mettre votre nom par écrit. » La dame reprend la syntaxe de Bernadette en changeant un mot. Elle lui dit « Boulette, aue era gratia, debie aqui penenquenze dias. » Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? On fera répéter Bernadette « Elle vous a dit vous ?» Elle m'a dit « vous ». Elle m'a parlé comme une personne parle à une personne. Voulez-vous avoir la grâce ? Bernadette a dit, voulez-vous avoir la bonté? Voulez-vous avoir la grâce? Voilà une grande question en ce temps du carême. Voulons-nous avoir la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Avant d'aller chercher en sacramentaire des définitions très difficiles et compliquées, revenons au commencement. Quel est l'état de grâce d'Adam et Ève? De vivre en amitié avec Dieu qui, le soir, à la brise légère, descendait dans le jardin. Cette rencontre que Dieu attend de nous, qui, bien souvent, moi le premier, nous dérobons. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? La grâce de venir ici? La grotte de Massabielle. Qu'était-elle avant les apparitions? Ah, nous connaissons, nous, la jolie grotte. Propre. Avant les apparitions, et quelques mois avant, la grotte était la porcherie municipale de la ville de Lourdes. Samson le porcher, en 1858, eh bien, ramassait les différents porcs de la ville de Lourdes pour les conduire aux rives de Massabielle, où il ne manquait ni de boue, ils aiment beaucoup s'y frotter, ni de rochers pour se gratter, ni de quelque herbe, ni de cette eau qu'ils aiment tant. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici? Mais pour un lourdais, ce n'est pas une grâce d'aller à Massabielle, c'est plutôt une crasse, car ce n'est pas propre. À Massabielle, qu'y a-t-il? Et on répondait du sang et de l'eau. Qu'est-il sorti du cœur du Christ? Et du sang et de l'eau. La dame va venir ici pour que nous ayons la grâce. Qu'est-ce qu'elle va dire? Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Nous avons entendu dans l'évangile dimanche dernier le seul métier qu'a trouvé le fils prodigue après avoir dépensé tout son bien dans une vie de désordre. Le pire emploi pour un juif. Garder des porcs. Pourquoi? Parce que le porc, c'est le symbole de l'impureté. Et bien voilà que la grotte de Massabielle, du point de vue de la symbolique, c'est le lieu de l'impureté, de l'animal interdit. Et ce lieu de l'impureté va accueillir la toute pure, la Vierge Immaculée. Elle vient du haut de la niche rocheuse attendre patiemment ses enfants comme le fils prodigue. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici? Lourdes, c'est avant tout, plus qu'une terre de miracles, une terre de conversion. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Voilà une invitation qui est lancée à Bernadette. Et Bernadette ne va pas répondre oui. Elle ne va pas non plus répondre non. Elle sent que cette invitation, c'est plus qu'une invitation mondaine, ordinaire. Elle va dire, je le promets. Bernadette est comme moi, bigourdane et capricorne. Je peux vous dire qu'on a la tête aussi dure que nos montagnes. Quand le commissaire de police, quand le juge de Lourdes, quand sa famille, quand tous lui diront qu'il est interdit pour elle d'aller à la grotte, que répondra-t-elle? Je l'ai promis. J'ai promis. Et c'est sur cette promesse de Bernadette de venir ici pendant 15 jours que la dame lui répond une autre promesse. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Et voilà que la dame disparaît. Bernadette est invitée à aller à la grotte. Quand? Quel jour? À quelle heure? Pourquoi faire? Ce sont des questions légitimes pour nous. Ce ne sont pas les questions de Bernadette. Elle ressentira tôt l'appel de la grotte. Elle ne peut expliquer ni quand, ni comment, ni pourquoi. Elle sent l'appel de la grotte. Il faut aller à la grotte parce que la dame l'y attend. Alors pendant ces apparitions, nous avons eu là un détail du prologue, retenons bien la question de la dame. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici? Il y a une grâce de Lourdes qui est la grâce de la conversion. Pendant les premières apparitions, on va commencer à venir aux apparitions parce qu'on en parle, y compris dans les journaux. Ce qui étonne, c'est le visage transfiguré de Bernadette. Nous avons médité dans le temps du carême, le second dimanche, combien le visage du Seigneur en haut de cette montagne a été transfiguré et était lumineux. Voilà ce que les gens constatent à la grotte. Un visage incandescent de Bernadette. Oui, pourquoi Bernadette ? Parce qu'il n'y a que Bernadette qui voit la dame, et on vient à la grotte pour voir Bernadette. Les sourires, les salutations, ce visage lumineux, et puis cette prière communicative et cette grande paix qui envahit les âmes. 1858 était une année jubilaire, et Mgr Laurence, l'évêque de Tarbes, avait demandé à tous les curés d'avoir des prédicateurs pour que ce carême ne soit pas un carême parmi tant d'autres, mais un temps de retour sincère à Dieu. Et l'abbé Peyramale, le curé de Lourdes, n'a pas trouvé de prédicateur. Voilà qu'il s'occupe chaque jour, eh bien, de prêcher le carême à ses ouailles. Et voilà que la dame est venue à la grotte, et le curé, qui reste sur la réserve dans un premier temps, intérieurement est tiraillé. Pourquoi ? Car au confessionnal, il entend de grands retours à Dieu. Il pourra dire qu'un vent, un souffle des béatitudes a soufflé sur sa paroisse. Et c'est sans doute lié à celle qui n'était peut-être pas vêtue d'une tunique en poil de chameau, comme Jean le Baptiste, mais de sa robe blanche. Elle ne portait peut-être pas une ceinture de cuir autour des reins. Elle ne se tenait certes pas sur les bords du Jourdain, mais sur les bords du Gard. Mais elle appelle à travers Bernadette à prier Dieu pour la conversion des pécheurs et des pécheurs que nous sommes. C'est la seconde partie dans les apparitions qui vont prendre une tonalité pénitentielle. À partir d'un certain moment, alors qu'on vient voir la grâce de Bernadette, de son visage, de ses sourires, font place maintenant à la plus grande austérité. Le 25 février, prenons l'apparition majeure, celle qui est au centre des apparitions, le 25 février, Bernadette a dit son chapelet, puis la dame lui a dit cette parole: allez à la source, boire et vous lavez. La grotte de Massabielle est au milieu des eaux. Je vous ai dit, juste devant la grotte, il y a le canal de sa vie. Et n'imaginez pas 15 mètres derrière le Gave. La grotte de Massabielle, c'est le lieu où le canal de sa vie se jette dans le Gave. La grotte est un petit mouchoir de poche, bien plus petit que ce que nous connaissons aujourd'hui. Au milieu des eaux, la dame du haut de la niche fait signe à Bernadette. Où se trouve la source ? Bernadette, elle est comme moi, elle est bigourdane. Elle sait où il y a de l'eau. Certainement pas au fond de la grotte. Il y a de l'eau dans le canal de sa vie, il y a de l'eau dans le Gave. La dame se trompe, c'est pas grave. Alors plusieurs fois, on voit Bernadette à genoux, comme perdue dans un mouchoir de poche. Ce que Bernadette ne voit pas, c'est la contorsion de ces 300 personnes qui sont dans la grotte pour laisser Bernadette faire ses allées-venues, car à la grotte, elle ne voit plus personne. Elle marche à genoux, on se demande avec quelle dextérité, et plusieurs fois, on la voit faire des allers-retours, levant la tête, la rebaissant, repartant. Elle finit par aller au fond de la grotte. La grotte est pleine de boue, parce que le canal de sa vie, le Gave, ça déborde. Bernadette finit par se recroqueviller et aller à l'endroit que la dame lui a dit. Nous ne sommes pas à l'époque hollywoodienne des grands films américains. N'imaginez pas Bernadette creusant un geyser, de l'eau, une source. Bernadette n'a sans doute même pas compris qu'il s'agissait d'une source. Elle a effectivement dit « j'ai creusé un petit clos ». Dans le patois de Lourdes, le petit clos, c'est juste l'équivalent du petit creux que vous mettez dans votre main. Elle a creusé, elle a trouvé une eau par trop boueuse, une fois, deux fois, trois fois, elle rejette. C'est de la boue, même on dirait chez nous, mi-patois, mi-français, de la bouillasse. À la quatrième fois, dit Bernadette, je pus boire, mais ça a excité ma répugnance. Et elle se rappellera le goût de cette eau. La dame lui a demandé d'aller à la source, de boire et de s'y laver. Alors Bernadette prend cette boue, cette glaise, et voilà qu'elle s'en macule le visage. Alors pour ceux qui sont venus voir la gracieuse Bernadette, les beaux sourires, douche froide, elle boit de la boue, elle se macule le visage, et voilà que maintenant on la voit à quatre pattes en train de manger de l'herbe. Car la dame lui a dit les jours précédents non seulement qu'il fallait prier Dieu pour les pécheurs, qu'il fallait, voulez-vous bien manger de l'herbe, sous-entendu pour les pécheurs. C'est ce que répondra Bernadette au jeune vicaire de la paroisse. C'est une drôle d'idée de manger de l'herbe. Elle ne répondra pas comme à Monseigneur l'évêque, bien après, on mange bien de la salade, avouez. Elle répondra seulement ces mots contrits pour les pécheurs. Car que contemple Bernadette ? Elle voit qu'autant la dame peut être souriante et joyeuse. Quand elle parle des pécheurs et du péché, elle voit que le visage de la dame se fait bien plus grave. Et Bernadette n'a qu'un désir dans cette amitié, c'est de faire plaisir à la dame. Alors elle s'est maculée le visage, debout. Et certains qui l'ont vu ont dit, ce visage, rougi par la boue, était en lui-même un appel à la conversion. Elle a mangé l'herbe, les herbes amères de la Pâque du Seigneur. Cette grotte s'appelle Massa Biel. Dans notre patois, cela veut dire Massa, la roche, Biel, vieille, la vieille roche. Mais dans le désert où Moïse conduit le peuple, il y a un lieu qui s'appelle Massa. C'est le lieu où le peuple a soif. Et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, tape le rocher, il en jaillira de l'eau. Nous sommes plus à Massa et Meriba, nous sommes à Massa Biel. La dame a fait jaillir l'eau de la source en disant « Allez à la source, boire et vous laver. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici ? Pourquoi faire ? Pour aller à la source, boire et vous laver. » La source, ce n'est autre que le cœur de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons été renés et de l'eau et de l'Esprit Saint au jour de notre baptême. Et bien voilà que dans toute cette expérience spirituelle de Bernadette, son baptême est rendu comme à son premier jaillissement. Ce n'est que dans l'après-midi qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une source. Car Antoinette Peyrard, Éléonore Peyrard, pardon, qui deviendra religieuse et qui a un sens pratique, dirions-nous, elle a vu Bernadette creuser un petit peu. Certains, plein de foi, ont bu à la suite de Bernadette. Elle est venue avec un bâton. Elle a commencé à enfoncer son bâton dans la boue. Elle a commencé à sortir. Et là, on a compris qu'il s'agissait d'une source. Et la première bouteille est partie le 25 mars. Le 25 février, pardon, dans la ville de Lourdes. Et quelque temps après, des miracles auront lieu. Mais chaque fois qu'on posera la question sur des miracles, Bernadette n'en a pas été témoin. Déjà, quand on lui dit que c'est la Sainte Vierge, elle répond « Je n'ai jamais dit que c'était la Sainte Vierge ». Car c'est vrai, elle ne le sait pas. Alors là, question de miracle, elle ne se prononce pas. Vont arriver la grande date du 25 mars. La grande date du 25 mars sera celle où la dame va enfin révéler son nom. Et pour bien comprendre le 25 mars, il nous faut revenir quelques jours avant, au début de ce mois, le 2 mars, où la dame lance un appel à Bernadette. Allez dire au prêtre, allez dire au prêtre, que l'on vienne ici. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici ? Voyez l'écho. Allez dire au prêtre que l'on vienne ici, en processio. Alors processio en patois, qui porte l'ambivalence du proche et du lointain selon le contexte, cela veut dire deux choses. C'est la procession liturgique, parce que la grotte n'est séparée de l'église paroissiale que de 2 kilomètres, il serait un peu exagéré de parler de pèlerinage, car c'est aussi le sens de ce mot. Quand on vient de plus loin, en patois, on peut dire processio pour un pèlerinage. Quand on est proche, on parle de procession. Allez dire au prêtre que l'on vienne ici en pèlerinage. Pourquoi ? Comme pour Abraham, il faut savoir quitter son pays quitter ses habitudes pour aller à la rencontre du bon Dieu. Et la Sainte Vierge, elle n'est là que pour nous conduire à Dieu. Elle veut que nous puissions vivre cette expérience du temps du carême, de la conversion. Et les apparitions, mis à part les quelques dernières, les deux dernières de mémoire, n'auront lieu que pendant le carême. Elle lui a parlé la première fois le jeudi après le mercredi des cendres. Le 2 mars, nous sommes encore dans la période du carême. Et on se dit, puisque la dame a dit 15 jours, ça veut dire que le jeudi 4 mars, ça sera fini. Et comme ça va être la dernière apparition, il va se passer quelque chose. Hein. Et rien ne se passe. Pourtant, il y a du monde qui est venu exprès. Et pendant 3 semaines, voilà que la dame ne va plus apparaître. Et quand on dit à Bernadette, il est interdit pour vous d'aller à la grotte, pour toi plutôt, elle répondra, ah, mais là, je n'ai pas promis. Bernadette pense que sa mission est terminée. La dame a dit, allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession, et elle a rajouté que l'on bâtisse une chapelle. Monsieur le curé a dit, une chapelle, tu as de l'argent toi? Moi non plus. Tout le monde n'a pas le grand conseil économique de Saint-Lô. Alors, le curé lui a dit, de toute façon, nous ne connaissons pas son nom. Voilà le grand désir de Bernadette maintenant. Pas pour elle. Elle n'a jamais posé la question. La question, c'était Madame Millet qui l'avait posée à travers elle. Voulez-vous me dire quel est votre nom? Et maintenant, elle va lui demander de la part de Monsieur le curé. Parce que la dame a répété les jours suivants la demande de la chapelle. C'est la demande la plus répétée du message de Lourdes. Pourquoi elle veut une chapelle? Pas simplement pour une chapelle. Elle veut convoquer en ce lieu choisi l'Église. Car elle va se révéler être le 25 mars, la mère de l'Église. Alors le 25 mars, 3 semaines après, elles ne se sont pas vues. Bernadette pensait que c'était terminé. À minuit, elle se réveille, elle ressent l'appel de la grotte, une joie immense. Je n'aurais pas pu dormir. Elle s'est rendormie du sommeil du juste. 4 heures du matin, à tâtons, on réveille le cachot. J'y retourne. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Bernadette prend le chemin de la grotte et une joie immense l'envahit quand elle arrive. Habituellement, la dame lui apparaît pendant la seconde dizaine de son chapelet. Mais là, elle est déjà là. Bernadette va réciter son chapelet. Et à la fin de ce chapelet, alors qu'elle se lève pour reproduire les gestes de pénitence, la dame recule et descend. Face à face, c'est le lieu le plus intime de leur confidence. Et Bernadette sait... Elle réussit à s'en rappeler, c'est déjà pas mal, car elle avait oublié sur le chemin du retour, le 2 mars, elle a parlé de la procession au presbytère. Elle avait oublié la chapelle, et le soir même, elle est venue se dire, mais elle a aussi demandé une chapelle. La mauvaise mémoire de Bernadette. Voilà ce que Dieu a choisi pour être le messager. Souvenons-nous, j'ai beaucoup parlé de Moïse. Dieu a choisi Moïse. Quel est le problème de Moïse? Mauvaise traduction pour nous, on croyait qu'il avait des cornes. Il était bègue. D'où le fait que Aaron vient être le porte-parole de Moïse. Avouez que si nous avions quelqu'un à choisir pour bien parler, nous ne choisirions pas un bègue. Voilà ce que Dieu choisit toujours pour confondre la sagesse des sages et des puissants. Alors Bernadette va demander ce jour-là à la dame son nom. Non pas une fois, car la dame a souri mais n'a pas répondu. Mademoiselle, voulez-vous avoir? Elle a appris qu'elle devait dire la bonté. Mais dans son patois, elle se trompe un peu et elle se trahit. Voulez-vous avoir la volonté de bien vouloir me dire quel est votre nom? Deuxième fois, sourire de la dame. Troisième fois, sourire impassible de la dame. À la 4e fois, voilà que la dame va répondre à la demande de Bernadette. Non seulement en parole, mais aussi en faisant un geste. La dame vient de faire glisser son chapelet sur le coude. Et voilà qu'elle va ouvrir les bras. Elle ouvre les bras, qui, sur un arrêt sur image, serait comme la Vierge de la rue du Bac. Puis elle fait monter ses bras au ciel et elle les redescend. C'est un geste liturgique, celui qui jadis habitait le commencement du Gloria, du Credo, le commencement du canon romain et celui de la bénédiction. C'est emporter la terre pour la faire monter au ciel. Les yeux levés au ciel, nous dira Bernadette, elle répondra en notre patois, Que soyera Immaculata Conception. D'accord. Bernadette n'a rien compris. Parce que je sois l'Immaculée à la limite, mais alors Conception, elle a même du mal à le prononcer. Et sur tout le chemin du retour, Bernadette ne fait que répéter que soyez raimakulada conchetsu, conchushu, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est difficile à dire. Elle arrive au presbytère, Bernadette est quand même bien éduquée, d'habitude elle aurait frappé, là non. Elle concentre sa mémoire, ne pas oublier un nom qu'elle ne comprend pas. Elle entre au presbytère sans frapper, sans rien, elle voit monsieur le curé qui se retourne, qui se demande qu'est-ce qu'elle fait à rentrer comme ça chez elle, et elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Le sourcil de monsieur le curé se met à faire un petit geste dont on comprend, c'était un homme très bon, mais qui pouvait entrer dans de grandes colères, que ça ne va pas durer longtemps. Bernadette se reprend. Aquero a dit, celle-là, a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Le curé la remercie, lui dit qu'il la verra plus tard. Lui est tombé à genoux et s'est mis à pleurer, car lui a compris. Même si, dira-t-il, c'est pas possible de porter un nom pareil, on verra pourquoi. Elle va le dire à l'abbé Pomian qui écoute, qui la congédie. Ce n'est que le soir, au coin du feu, chez Jean-Baptiste Estrade et sa sœur Emmanuelite, que celui-ci lui déclare « Depuis le temps qu'on te le dit, c'est donc la Sainte Vierge. » Oh, c'est la Sainte Vierge. Mais Bernadette n'a toujours pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. « Je suis l'Immaculée Conception. » En 1854, notre Sainte Mère l'Église, par la voix du bienheureux pape Pie IX, a proclamé le dogme de, attention, sa conception immaculée. Cela veut dire que dès le premier instant de sa conception, et c'est seulement de cet instant-là que parle le dogme, dès le premier instant de sa conception, par un privilège spécial venant déjà de la mort et de la résurrection du Christ, tout a commencé à Lourdes par le signe de la croix. Voilà que la Vierge a été préservée de toute tache du péché originel. La tache originelle, en latin macula, du coup immaculada, immaculée, elle est sans la tache du péché originel. Certes, mais la dame n'a pas seulement dit « je suis l'Immaculée », elle a dit « je suis l'Immaculée Conception ». Et c'est là que ça commence à mal se passer. Mais pour qui se prend-elle pour nous dire quelle est sa propre conception ? Que veut dire la dame ? Nous sommes le 25 mars. La dame est vraiment la maîtresse de l'espace et du temps. Elle a attendu le jour où dans l'église nous faisons mémoire de l'Annonciation, où l'archange lui révèle son nom, pleine de la grâce. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici ? C'est la mère de la grâce qui nous invite. Également la mère de l'église, puisqu'elle veut cette chapelle et qu'elle veut qu'on y vienne en pèlerinage, qui veut rassembler ses enfants. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'a dit l'archange Gabriel comme mission à la bienheureuse Vierge Marie ? Est-ce qu'elle allait vouloir, qu'elle allait, pardon, concevoir et enfanter ? Bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie va concevoir et enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. La bienheureuse Vierge Marie est véritablement la mère du Seigneur Jésus. Et le dogme ne s'est prononcé que sur les premiers instants de sa conception, dans le ventre de sa mère, Sainte Anne, dont vous avez une si belle chapelle restaurée. Bien voilà que dans le ventre de Sainte Anne, la Vierge a été préservée de toute tâche du péché originel. Pourquoi ? Pour mettre au monde celui qui allait venir nous sauver. La nouvelle Ève met au monde le nouvel Adam pour venir à notre secours. Mais voilà que dans l'ordre de la grâce, voulez-vous avoir la grâce de venir ici ? Dans l'ordre de la grâce, quelle est la mission de la mère du Seigneur Jésus ? Elle l'a reçue au pied de la croix. Le Seigneur ne dit pas « Mère, voici votre fils maintenant que je m'en vais ». Il lui dit « Femme ». Il s'adresse en nouvel Adam à la nouvelle Ève. « Femme, voici ton fils. » À partir de ce jour-là, le disciple bien-aimé que nous sommes chacun prit Marie chez lui. Quelle est la mission de la Sainte Vierge ? En quoi est-elle la conception ? Parce qu'elle est là pour nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Voilà pourquoi elle nous invite à aller à Lourdes. Elle nous invite à y aller non pas seule, ni de sa propre initiative, en communauté, que ce soit en procession ou en pèlerinage. Et elle veut qu'il y ait les prêtres. Allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en pèlerinage. Faites venir tous mes enfants, tous ceux dont vous avez charge en votre ministère. Voit un confrère au fond. Voilà la mission de celle qui se révèle être la mère de l'Église, parce qu'elle fait suivre cette déclaration, que soniera Immaculata Conception en disant ce que femme veut, Dieu veut. Je veux la chapelle. Voilà le grand désir de la dame. Je veux qu'en ce lieu, il y ait une chapelle. Pourquoi une chapelle ? Mais parce que la chapelle, c'est là où on va écouter les enseignements du Seigneur Jésus. Ou par le ministère des prêtres, les Écritures vont être actualisées pour le monde dans lequel on vit. Parce que dans la chapelle, on va recevoir les sacrements. Et que recevons-nous dans les sacrements ? La grâce du bon Dieu. Cette amitié qui est restaurée entre Dieu et nous. Et la bienheureuse Vierge Marie n'a qu'un désir. Et bien que nous soyons chacun tout à son Fils. Enfin, il y aura la dernière apparition. Au jour de la fête du Mont Carmel, la grotte est barricadée. On ne peut pas aller à la grotte sous peine d'avoir une amende. Nous sommes en concordat, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Bernadette n'est pas, comme au 11 février, sur l'île du Chalet à traverser le canal de sa vie. Elle n'est pas à la grotte, elle est dans ce que nous appelons communément la prairie. Là où se trouve l'église qu'on appelle Sainte Bernadette, parce que Sainte Bernadette était bien loin de la grotte ce jour-là. On lui avait changé son capulet pour ne pas qu'on la reconnaisse. Et Bernadette a vu la dame. Et on lui dit, vous deviez être bien loin pour la voir. Et j'étais à la grotte comme d'habitude. Et elle dira ceci, jamais je ne l'ai vue plus belle que ce jour-là. Plus Bernadette contemplait la bienheureuse Vierge Marie, plus son âme était comme décuplée. Et après les apparitions, Bernadette n'a pas voulu faire, comment pourrions-nous dire, la starlette pour raconter en grande diva tout ce qu'elle a... Non, la vie cachée. Elle dira ceci qui peut étonner, un balai. Et quand on s'en sert, on l'a en main. Quand on s'en sert plus, on le range derrière la porte. Voilà comment Bernadette voit son rôle. J'ai été utile, maintenant je dois être cachée. Elle en a marre que les gens veuillent la voir, veuillent la toucher, lui donner de l'argent. Ça me brûle, dira-t-elle quand on lui glisse quelques billets, quelques pièces. Ne jamais profiter de cette gratuité immense que la Vierge lui a communiquée. Elle n'a qu'un désir. C'était d'abord de faire sa première communion, elle la fera le 3 juin de cette même année. Et la première communion lui ouvrit la porte des enfants de Marie. Elle avait deux désirs en son cœur, Bernadette. Recevoir le bon Dieu dans la communion pour ne faire qu'un avec lui et se consacrer à la bienheureuse Vierge Marie. Et cette vocation qu'elle aura reçue au jour où la Vierge lui apparaît comme celle du Mont Carmel, celle qui protège la vie religieuse, celle qui est également la patronne de tous les contemplatifs, eh bien, rentrera au couvent de Nevers pour vivre une vie toute simple. Elle avait un désir, je vous l'ai dit, de devenir enseignante, mais sa mauvaise santé, parce qu'on trouvait qu'elle était très souvent à l'infirmerie, on la nommera sœur infirmière. Et elle se dévouera sans compter, avec une grande expertise, auprès de ses sœurs malades, jusqu'à finir dans ce qu'elle appelait sa chapelle blanche. Pour ceux qui ont été à Nevers, il y a encore le lit de Bernadette avec ce grand rideau blanc. C'était sa chapelle blanche. C'est là qu'elle dira, dans sa souffrance des derniers jours, deux choses importantes pour nous. J'ai reçu tant de grâces pendant ma vie. Et j'en ai si peu profité. Et la deuxième, je suis comme un grain moulu. Et la fille du meunier de Lourdes sait bien ce que c'est le grain moulu. Voilà qu'elle tombe en terre le 16 avril 1879, et qu'elle a fleuri en sainteté. Voilà un peu, mes chers amis, quel est le message de Lourdes, cet appel pressant à la conversion. Pourquoi pressant ? Parce qu'il s'agit d'une mère et que nous sommes chacun ses enfants. Les saints et les anges en cœur glorieux chante vos louanges au rêve.